Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 21 décembre 2018, en direct de Washington, Jean-Roger Lyon
et Anne Albertson.
Vous commencez les titres.
Édition spéciale sur la République démocratique du Congo. Les élections initialement prévues le 23 décembre ont été renvoyées au 30 décembre. La campagne s'achève aujourd'hui dans un concert de réactions négatives au report du scrutin.
Les Togolais ont voté hier dans le cadre des législatives boycottées par l'opposition. Notre correspondante Kai Lawson à Lomé fera le point dans cette édition.
Ici aux États-Unis, le ministre de la Défense démissionne. Jim Mattis avance des divergences avec le président Donald Trump sur sa politique étrangère.
Le gouvernement fédéral américain toujours menacé de paralysie. Donald Trump a rejeté un compromis au Congrès. Le président insiste pour que le financement de son mur à la frontière avec le Mexique, une promesse de campagne, soit inclus dans le budget.
Également à suivre notre page sport ainsi que la Miniteco, exceptionnellement aujourd'hui dans la seconde partie de cette édition.
Édition que nous commençons par la RDC.
Il n'y aura donc pas d'élection dimanche en RDC. La commission électorale congolaise, après un long moment de suspense, a annoncé hier le report des élections au 30 décembre. Corneille Nanga, président de la CENI.
Étant donné le fait qu'on ne peut organiser des élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs kinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tiennent le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante.
C'était Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC.
Après l'annonce du report des élections d'une semaine, des échauffourées ont éclaté à Limité, le quartier qui abrite le QG de l'UDPS de Félix Tshisekedi et dans la commune voisine de Lembé. Correspondance Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial à Kinshasa.
La nuit était calme dans la capitale congolaise, mais elle a été précédée d'une journée de suspense et de tension. Au fil de la journée, la rumeur enflait et le report du scrutin semblait se confirmer. Mais avant même que Corneille Nanga, le patron de la CENI, ne prenne finalement la parole, des étudiants avaient déjà commencé à manifester pour la tenue des élections. Ensuite, des militants de l'opposition rencontrés au siège du MLC de Jean-Pierre Bemba ne cachaient pas leur colère et leur déception, tout en promettant de se rendre aux urnes le 23 décembre. Malgré tout, du côté du Front commun pour le Congo, qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, on affirme qu'on était prêt à aller aux urnes ce 23 décembre, tout en se pliant à la décision de la CENI. La campagne électorale s'achève donc ce vendredi comme prévu et ne sera pas prolongée. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Le président de la CENI, Corneille Nanga, a précisé que la campagne électorale rattrapée par la violence s'arrête dès ce vendredi 21. Idriss Fall a recueilli la réaction de Tryphon Kinkyemulumba, un des 21 candidats à la présidence en RDC.
Beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, un sentiment de révolte. Jusqu'à présent, M. Nanga nous avait assuré qu'il maîtrisait toute la situation et que les élections auraient lieu absolument le 23 décembre. Et tout son cabinet prétendait que rien ne pouvait faire bouger cette date. Il y a eu beaucoup d'arrogance. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les arguments avancés par Nanga ne tiennent pas la route. On parle de la destruction de ce stock de matériel à Kinshasa. Aujourd'hui, personne n'a pu avoir la preuve de cette destruction. On ne comprend pas. C'est vraiment l'incompréhension, c'est un sentiment de révolte et on est en train de voir que sur les campus, dans l'opinion, il y a une révolte réelle. La tension est montée de plusieurs camps.
Maintenant, la campagne est terminée. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine?
Ben voilà, c'est justement cela. Non seulement la campagne se termine vendredi, mais disons que la campagne est terminée pour le gouverneur de la ville de Kinshasa parce que les meetings ont été interdits par le gouverneur de la ville de Kinshasa alors qu'il n'a pas le pouvoir, c'est la CENI seule qui en a le pouvoir, et le gouvernement de la ville de Kinshasa, André Timbuta, a décidé d'interdire tout meeting et de bloquer un candidat qui rentrait dans la ville pendant plusieurs heures. C'est vraiment l'incompréhension, c'est le chaos. Maintenant, les candidats présidents vont pouvoir se réunir, il va y avoir des déclarations. Pour l'instant, je vous dis, c'est une situation tout à fait incontrôlable.
Trifon Kinkié Mulumba, candidat à la présidence en RDC.
Marie-Josée Ikofu, elle est la seule femme candidate à cette présidentielle en RDC. Elle dénonce l'incapacité de la CENI à mener à bien ce processus électoral.
Je vous l'avais dit la dernière fois que ce processus électoral m'a fait découvrir de dons que je ne connaissais pas, que j'étais prophète. Voilà, je l'ai dit dans toutes mes interventions que la CENI n'était pas prête et l'occasion nous est donnée cette fois-ci de pouvoir le dire haut et fort que la CENI n'est pas prête et je pense qu'elle ne sera jamais prête, du moins cette CENI-là. Et il va falloir que nous puissions avoir un peu plus de maturité pour conduire 80 millions de personnes qui sont en train de croupir dans la misère, 80 millions de personnes qui sont assis sur du cobalt, qui sont assis sur du cuivre, qui sont assis sur de l'or, qui sont assis sur du diamant et qui n'arrive pas à manger à sa faim. Ça, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Alors que la CENI décide aujourd'hui de reporter les élections, que ce soit d'une semaine, de deux semaines ou d'un mois, deux mois, j'estime que ça ne sert absolument à rien. C'est que moi, je constate aujourd'hui les raisons qui nous sont avancées, l'incendie de l'entrepôt à Gombe, Ebola à l'est du pays, l'insécurité à Beni, à deux reprises des convois qui étaient attaqués à Yumbi, à Bolobo et puis à Massimanimba. Toutes ces attaques, toutes ces tueries qu'il y a eu font que aujourd'hui la CENI devrait reporter les élections dans une semaine. En réalité, ça changera quoi? Il en manquait déjà les machines. L'Ebola, il y avait déjà ça quand on a lancé ces élections-là. La sécurité a béni. Chaque jour, on apprend qu'il y a 14 morts, 12 morts, 10 morts. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau qui pourrait justifier les reports de ces élections. Donc, moi, personnellement, je voudrais tout simplement dire, comme j'ai cru l'entendre le dire à cette réunion-là, que certaines personnes avaient refusé la machine à voter, ont fini par l'accepter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'on a fini par accepter la machine à voter. Non. On est dans une situation où on n'a pas le choix. C'est ça qui dérange. Et donc, moi, ce que je voudrais demander, et je m'adresse justement au peuple congolais, nous ne pouvons pas aller à des élections à n'importe quel prix parce que nous savons très bien que ce soit le 23, que ce soit le 30, que ce soit le 6, il y a un candidat qui est déjà élu et c'est lui qu'on va nous annoncer qui a gagné les élections. Mais moi je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné parce que justement, comme je viens de le dire, il y a 80 millions de personnes qui souffrent, il y a 80 millions de personnes qui veulent des élections, mais qui ne cherchent pas qu'il y ait des élections pour qu'un individu soit élu. Ils veulent qu'il y ait des élections parce qu'ils auront voté la personne qu'eux ils ont choisie. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas battu campagne. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi nous avons préféré nous exprimer à travers les médias, pour la simple bonne raison que de quelle élection parle-t-on? Moi, je crois sincèrement que la CENI doit devoir prendre ses responsabilités et démissionner tout simplement.
Marie-Josée Ikofu, l'unique femme candidate à la présidentielle en RDC.
Officiellement, les élections sont reportées en raison des conséquences d'un incendie qui a touché un entrepôt de la CENI à Kinshasa le 13 décembre. Pour la coalition des Congolais pour la transition, les 7 jours dont la CENI a besoin ne suffiront pas pour organiser les élections. Elle appelle les Congolais à se lever pour réclamer une transition. Au micro d'Eddie Sango, Emery Kalouira, président de la CCT.
Monsieur Corneille Nangaa n'est pas aujourd'hui capable de nous dire qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire depuis les 3 années de prolongation qui leur ont été accordées, qu'il aura pu à faire dans les 7 jours à venir. Et par conséquent, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, qui n'a aligné aucun candidat à cette farce électorale par ma voix, appelle l'ensemble des Congolais à se saisir du dossier, à se mobiliser, a activé l'article 64 pour liquider le régime de M. Kabila qui ne veut pas la liberté, qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas la justice, afin que nous commencions la transition qui finalement permettra aux Congolais de se préparer les vraies élections et de se choisir les vrais dirigeants.
Une semaine, ce n'est pas trop, ce n'est pas la fin du monde.
Nous sommes convaincus que la semaine annoncée par M. Corneille Nangaa n'est qu'un ballon d'essai. D'ici peu, il va encore annoncer un nouveau report, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la possibilité de gagner les élections et ils veulent utiliser l'armée, ils veulent utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. La CCT n'en veut plus.
On sait qu'il y a eu cet incendie, en fait, il y a eu tout ce qu'il y a, on a ramené les machines, maintenant il faut les reconfigurer, il faut les réinstaller, tout ça, ce ne sont pas
les machines. Monsieur Nangaa, il sait très bien qu'au regard de la grandeur de notre territoire, nous sommes le 2e pays le plus vaste de l'Afrique, un pays totalement enclavé, sans électricité, sans route, sans logistique nécessaire, sans voie de communication, il est totalement impossible de déployer les machines dans tous les territoires de notre pays où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de générateurs électrogènes pour allumer ces machines. Il n'y a pas suffisamment de milliards de carburants au Congo pour alimenter les groupes électrogènes qui doivent allumer ces machines. Monsieur Nanga le sait très bien. Le calcul de Monsieur Nanga consiste à plonger le Congo dans le chaos. Et ce chaos va emporter et Monsieur Corneille Nanga et Monsieur Joseph Kabila et va laisser aux Congolais la possibilité de s'ouvrir à une transition sans ces gens-là pour revenir à l'État. Et vous n'êtes pas sans ignorer que sur le plan constitutionnel, M. Kabila est totalement hors du cadre constitutionnel.
C'était Emery Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition, joint par Eddy Isango.
On termine cette édition spéciale RBC à Lumumbashi avec les avis des populations suite au report des élections. Les réactions ont été recueillies par Narval Mabila.
Ma réaction à moi, à chaud, c'est une déception tout simplement. Parce que pour une fois, je pensais que la République démocratique du Congo était à même de prouver sa maturité politique en organisant et en réussissant cette organisation des élections éventuellement. Et je pense que nous sommes en train de prouver à la face du monde combien cette classe politique est encore immature.
S'il vous plaît, déjà nous sommes au bout de nos moyens. Nous sommes très mécontents par rapport à ça. Et nous disons que ça s'est joué de nous. Vous savez, messieurs les journalistes, en 2015, nous avions déposé notre argent. Nous étions candidats en 2015. La CENI avec Kabila nous ont bouffé cet argent. Il veut encore nous bouffer l'argent de cette année, plus même l'argent que nous avons dépensé pour battre campagne. C'est regrettable vraiment. Il n'y a qu'au Congo là où les ridicules ne tuent pas. Nanga nous a dit qu'il n'y aura même pas le report d'une minute seulement. Mais aujourd'hui, il veut reporter les élections. Ils ont refusé le soutien des autres nations, des Nations Unies, pour qu'on vienne en aide de façon qu'on arrive à les élections apaisées et dans le délai. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils avaient déjà des moyens. Comment aujourd'hui il peut nous dire qu'il ne sait pas déplacer les matériels?
Pas quelque part, ce qui se passe en ce moment, ça s'est passé au palais du peuple. Mais une chose est sûre, il y a des bataillons militaires, étrangers, comme les nôtres aussi, qui viennent d'équiper.
Pratiquement à deux jours ou trois jours des élections, le cri d'horreur est sorti. On s'attendait, ça nous étonnait que ça traîne, mais cette fois, je crois que ça nous rassure. Mais nous, on se dit qu'après le 23, il faut qu'il y ait un autre président. Le président sortant devra pratiquement arrêté d'être en fonction. Effectivement, Kinshasa est militarisé et je pense que certaines provinces le seront très bientôt, connaissant la gestion de la magistrature suprême actuelle. La peur a changé de camp, c'est tout à fait normal, mais vous savez qu'il n'y a pas une plus forte arme que la population. Et je suis certain que l'armée congolaise devra maintenant beaucoup réfléchir pour savoir à quoi elle sert si aujourd'hui ce sont les étrangers qui viennent remplacer leurs fonctions. Donc, c'est à eux maintenant de réfléchir. Pourquoi ce n'est pas eux qui interviennent, ce sont les étrangers qui interviennent à la place. Et le candidat Chadari, la même chose, il doit se poser la question, pourquoi ils se sont moqués de lui? Parce que là, je dirais que le président Kabila ne s'est pas seulement moqué de l'opposition, mais aussi de la majorité.
Réaction des populations congolaises recueillies à Lumumbashi, dans le Haut-Katanga, par notre correspondant Narval Mabila. Restez scotchés à VOA Afrique, dans quelques instants, le reste de l'actualité.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Et pour le reste de l'actualité ce jour, on commence par le Mali.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier ses premières sanctions contre des Maliens contrevenant à l'accord de paix de 2015, selon des sources diplomatiques qui ont souligné que de nouvelles mesures coercitives pourraient être encore prises à l'avenir. Trois Maliens sont interdits de voyage. Il s'agit de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la Coalition du Peuple pour l'Azawad, la CPA, d'Armoudou Ag Asrif, un cadre du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié, le Gatia, et de Mahamoudou Agrissa, un homme d'affaires appartenant au Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad. C'est la première fois que l'ONU cible des individus depuis l'adoption en 2017 d'un régime général de sanctions visant le Mali.
Au lendemain des législatives au Togo, aucun chiffre officiel, même pas le taux de participation, n'a été communiqué. Selon la commission électorale, c'est nier le gouvernement togolais. L'affluence était au rendez-vous. La principale coalition de l'opposition estime qu'au regard du boycott du scrutin, les législatives doivent être annulées. Le point avec notre correspondante, Kayla Osson.
Les Togolais sont dans l'expectative des premiers résultats des élections d'hier pendant que l'affluence divise parti au pouvoir et opposition. Pour le gouvernement de Faure Gnassingbé, les Togolais ont foulé aux pieds les consignes de boycott en allant massivement voter ce 20 décembre. Dans une déclaration, la coalition des 14 partis de l'opposition se réjouit du fait que les populations n'ont pas fait le déplacement des centres de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Pour la C14, le taux de participation ne devrait pas excéder les 5%. Au vu de ce taux jugé extrêmement faible, cette coalition conclut que les élections législatives du 20 décembre doivent être purement et simplement annulées. Tout compte fait, les Togolais étaient aux urnes ce 20 décembre pour un scrutin sans suspense, puisque les autres candidats ne font pas le poids devant unir le parti au pouvoir. Notons que la Commission nationale électorale indépendante CENI dispose d'un maximum de 6 jours pour proclamer les résultats provisoires. Kayla Sam, Lomé, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, les électeurs seront finalement appelés aux urnes le 10 mars 2019, 4 mois après la date initialement prévue pour des élections législatives qui doivent dénouer une crise politique déclenchée en août 2015. C'est ce qu'a annoncé hier le président José Mario Vage. Ces élections doivent permettre de mettre fin à la crise que traverse le pays depuis l'éviction en août 2015 par le président Vage de son premier ministre, Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, au pouvoir, auquel M. Vage appartient également.
La Cour suprême du Sénégal a mis en délibéré au 3 janvier sa décision sur le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Ali Fassal, contre sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à 2 mois de la présidentielle à laquelle M. Sall est candidat. En prison depuis près de 2 ans, Ali Fassal, 62 ans, et farouche opposant au président Macky Sall, reste éligible tant que ses recours ne sont pas épuisés devant les juridictions sénégalaises. L'arrêt du 3 janvier sera en principe décisif pour l'avenir politique de l'ancien maire de Dakar.
Ici aux États-Unis, le chef du Pentagone, Jim Mattis, a brutalement annoncé hier sa démission du gouvernement de Donald Trump au lendemain de l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie, ce qui a pris de court ses alliés. L'administration Trump prépare également un retrait important des troupes stationnées en Afghanistan, a indiqué hier soir sous couvert d'anonymat un responsable américain. Le Wall Street Journal et le New York Times évoquent le départ de la moitié des 14 000 militaires américains présents sur le sol afghan.
Le président américain a rejeté jeudi un compromis budgétaire bâti au Congrès parce qu'il ne comprend pas de financement pour un mur frontalier avec le Mexique, poussant les administrations fédérales au bord du shutdown. Le président républicain insiste pour qu'un financement du mur à hauteur de 5 milliards de dollars soit inclus dans le budget. Au cas défaut, une enveloppe substantielle soit consacrée à la sécurité aux frontières. Faute d'accord sur le financement du gouvernement avant ce vendredi minuit, certaines administrations devraient devoir fermer et mettre des employés au chômage technique.
Le Conseil de sécurité est appelé à voter aujourd'hui sur un projet de résolution autorisant l'envoi d'observateurs au Yémen et visant à entériner les résultats des récentes consultations inter-yéménites tenues en Suède, selon des diplomates. Les consultations inter-yéménites ont notamment permis d'aboutir à un cessez-le-feu et à la décision d'un retrait des combattants de la ville de Hodeïda et de son port, crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Les ports d'Al-Salif et de Rassissa sont aussi concernés par des mesures de cessez-le-feu. Feu et d'évacuation des combattants.
Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
Et comme promis, économie et sport, maintenant.
Maintenant, la minute éco avec Nani Talani.
Le Sénégal bénéficiera de 47 millions de dollars du Fonds international de développement agricole. D'après Ecofin, le financement vise à booster la production et la commercialisation du riz, du maïs, du fonio et des petits ruminants, ainsi qu'à appuyer certains produits complémentaires comme le mil, le sorgho et la banane. Cette seconde phase du programme de développement agricole et d'entrepreneuriat rural aidera des producteurs à accéder au crédit agricole, à maîtriser les services financiers et à améliorer les aménagements hydro-agricoles et les infrastructures pastorales. L'Angola et la Banque mondiale viennent de signer deux accords de financement de 280 millions de dollars destinés à soutenir des projets dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau. Terminons avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui a annoncé que les liquidités actuellement disponibles pour l'ensemble des États de la CEMAC s'élèvent à 1 579 milliards de francs CFA. Le Cameroun a la plus importante réserve avec 675 milliards de francs CFA. La deuxième place revient au Gabon qui, malgré ses crises économiques et politiques, dispose de 389,8 milliards de francs CFA. La Guinée équatoriale s'arrache la troisième place avec 250,38 milliards de francs CFA. Le Congo-Brazzaville prend la quatrième place avec 195,28 milliards de francs CFA. Le Tchad est au cinquième rang avec 48,75 milliards de francs CFA. La Centrafrique termine sixième avec 35,78 milliards de francs CFA.
À présent, la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
La Belgique et le Sénégal terminent l'année en tête du classement FIFA.
Oui, en Afrique, le Sénégal est repassé devant la Tunisie le mois dernier et les Lions de la Teranga finissent 2018 en tête comme l'année passée. Les Aigles de Carthage sont deuxièmes devant le Maroc qui complète le trio. Au niveau mondial, la Belgique, troisième du dernier mondial, devance les champions du monde français, tandis que le Brésil referme le podium. Leader il y a un an, à la même époque, l'Allemagne pointe à une triste 16e place à l'issue des derniers mois difficiles et d'un mondial chaotique.
Khalidou Koulibaly ne bougera pas cet hiver.
Et oui, son club Naples a tranché. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, a scellé le sort de l'international sénégalais dans les colonnes du Corriere del Mezzogiorno. On ne vendra pas Koulibaly en janvier, a assuré le dirigeant avant de nuancer. Je cite, « Mais le moment viendra où l'on ne pourra pas refuser une autre offre indécente. Manchester United aurait proposé 105 millions d'euros, mais le Napoli a fixé la barre à 150 millions pour Khalidou Koulibaly. Désormais reconnu comme une référence à son poste, le défenseur central sénégalais est courtisé par les plus grands clubs européens. »
Barcelone se fait prêter Murillo.
Le FC Barcelone et le Valence CF ont conclu un accord concernant le prêt du joueur Jason Murillo pour le reste de la saison 2018-2019, a annoncé le Barça dans un communiqué officialisant la venue du défenseur de 26 ans. L'accord comprend une option d'achat de 25 millions d'euros, a ajouté le club Blaugrana qui était en quête d'un renfort en défense pour suppléer les absences du champion du monde français Samuel Umtiti et du Belge Thomas Vermaelen pour cause de blessure. Le défenseur colombien peu utilisé par le club Che n'a disputé que 3 matchs cette saison avec Valence. NBA, pour finir avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit dernière.
Oui, Yacouba, Miami Heat a défait Houston Rockets à domicile 101 à 99. Les Clippers de Los Angeles et Dallas sont à égalité pour le moment au quatrième quart de cette rencontre 109-109. Résultats dans nos prochaines éditions.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Un seul dossier au menu de cette session d'information, direction donc le Burkina Faso. Des centaines d'élèves et d'enseignants ont abandonné les classes depuis la rentrée d'octobre. Dans l'est du pays, ils ont fui cette zone infestée par les activités des groupes terroristes. Beaucoup se sont réfugiés à Fada, grande ville de l'est. Reportage de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Issa Napon.
Dans la cour de l'école primaire de Bassoundi, située au centre-ville de Fada, des groupes d'élèves grouillent ça et là.
Parmi eux, certains qui ont dû fuir les écoles de leur village pour se retrouver ici. C'est aux enseignants qu'échoit la mission de les insérer dans ces moments difficiles, explique Ismaël Nadjouari, enseignant titulaire de cette école.
C'est vrai, rien que dans la commune de Matiakwali, il y a plus de 200 élèves qui ont été déportés à Fadaville ici. On l'a éparpillé dans les différentes écoles. Dans ma classe précisément, j'ai 3. Au total, nous avons 7 enfants venus de Matiakwali.
Matiakwali, une des communes de la province du Gourma, où les terroristes ont instauré la psychose au sein des habitants. Depuis des mois, les écoles se ferment les unes après les autres, comme ce fut le cas ici à Namungu. Le seul bruit d'une moto provoque la hantise, assure ce responsable sous couvert d'anonymat.
Si c'est la peur seulement, tu vas me voir pas trop longtemps au dehors. Actuellement, à Namungu, les enfants ne viennent même pas à l'école comme ça. Ça reprend un peu, mais pas comme avant. Même si on est en classe, et puis bon, on entend des motos qui passent comme ça. Les regards tournés vers là-bas, c'est à fait même des nuits qui reviennent.
C'est ainsi la psychose dans toute la région. Plus rien ne marche comme avant, soupire le maire adjoint de la commune de Fadel Ngourouma, Fadel Chambiano.
Nous avons un certain nombre de bailleurs qui se voient un peu réduire leur champ d'action dans la région pour ces mesures sécuritaires. On avait affaire à des bandits qui avaient peur de l'arrivée des forces de sécurité. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont à mesure d'utiliser des armes de guerre, des explosifs et qui sont prêts pour affronter les forces de défense.
Plusieurs enseignants ont reçu l'injonction des terroristes d'enseigner l'arabe à lieu et place du français. Ismaël Nadjouari.
Actuellement, nous sommes dans une situation où tout le monde est désemparé, élèves, parents d'élèves, enseignants. Donc, à tout moment, chacun se dit qu'il peut être victime de la situation. Il n'y a pas quelqu'un qui est actuellement dans la quiétude.
De nombreuses écoles ont été brûlées dans la région par de présumés terroristes. Le colonel Ousmane Traoré est le gouverneur de la région de l'Est.
Les zones où les écoles sont brûlées, c'est essentiellement la commanderie. Il y a quelques cas résiduels vers la Rompienga et vers la Takoua. Maintenant, les écoles se ferme, même quand il n'y a pas de dégâts, parce que les gens, quand ils apprennent ce qui s'est passé à la Koumandiari, qu'il y a des bandits qui sont venus tourner autour d'une école, ça crée une certaine panique et les parents demandent à leurs enfants de ne pas aller à l'école parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Une situation fâcheuse pour laquelle des stratégies sont en cours, rassure le maire adjoint Fadel Chambiano.
Des rencontres stratégiques se mènent autour donc, des premières autorités dans le but de voir comment rassurer le personnel du cadre enseignant afin de pouvoir continuer les services.
Depuis l'intensification des attaques terroristes au Burkina Faso, environ 600 à 700 écoles, selon plusieurs sources, ont dû fermer sur l'ensemble du pays en raison des risques encourus par les enseignants et les élèves. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Kigo mwape kitoko ya maji Etuale ya fami babo yo banda nangai Na kolanda yo te suka molongoi Kadika bela ngande motemba mama oh oh Kadika bela ngande motemba mama oh oh Mama oh Kadima nasenga kiyo permission Nakende mobembo sima ya sanza na kozongai Kalima na senga kio zirangai Soki na uti mobembo na kuta yo Makabo mansu leloko mabongwani Balo binangai obali chuza Oh, gana zui desu na motemai Kalika belangande motemba mama oh, oh. Kalika belangande motemba mama oh, oh. Mama oh. Wale ya suka toza la kabiso mibale Loba kona kingo sheri yoko nila nilangai mamae
Voilà, c'est sur cette rumba congolaise que nous mettons fin à cette session d'information. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anna Berson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Lyon à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.